Alors, nous allons poursuivre avec deux exposés qui donneront lieu à discussion. Le premier, de Rachel Chamou, donc, qui est infirmière coordinatrice à l'unité adolescents jeunes adultes de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Donc je lui passe tout de suite la parole pour traiter de la fatigue et de l'asthénie liées au cancer de l'enfant ou de l'adolescent.
Ou AJA, c'est-à-dire ado, jeune, adulte. Si les acronymes vous posent souci, n'hésitez pas à intervenir. Le son est bon, ça va ?
Ah. Plus près, il faut parler assez près.
Alors, je vais me coller dessus. On va commencer tout simplement par quelques définitions sur ce qu'est la fatigue et les différents aspects de la fatigue. La fatigue est donc un affaiblissement physique dû à un effort excessif, à une sensation pénible qui accompagne le patient. C'est aussi la fatigue un moyen au corps qui permet d'exprimer un besoin de repos et de ressourcement. Il existe un autre terme qui est l'asthénie. L'asthénie est une sensation subjective de fatigue anormale qui est généralement chronique, sans cause immédiate, hors de contexte d'effort maximum, voire même d'effort à minima. Cette asthénie n'est pas améliorée par le repos et elle est cliniquement significative. Nous pouvons aborder deux aspects de l'asthénie. L'asthénie physique, qui est une asthénie qui prédomine généralement le soir, en fin de journée. Quant à l'asthénie psychique, elle prédomine généralement le matin. Elle est souvent accompagnée de symptômes d'ordre psychopathologique tels que l'anxiété, la dépression, le repli sur soi. Pour l'asthénie, le sommeil n'est pas réparateur. L'asthénie psychique entraîne une lassitude, comme vous l'a expliqué M. Fiat. Un autre terme qui est le déconditionnement à l'effort, un terme que l'on emploie assez rarement, qui est une diminution des capacités physiques et ou psychologiques qui affecte la vie quotidienne du patient et qui est la résultante d'une inactivité prolongée. L'hospitalisme, peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce terme, avec parfois jusqu'à une régression chez les enfants qui sont petits. On connaît des enfants qui sont en capacité de marcher, de parler, et qui vont régresser au point d'avoir des difficultés à se mouvoir et à être dans l'attente d'une prise en charge globale par soit les aidants, soit les soignants. En cancérologie, il faut savoir que l'on utilise de façon totalement indifférente les deux termes de fatigue et d'asthénie. Qu'est-ce que la fatigue liée au cancer ? C'est un épuisement chronique du corps et du psychisme qui ne s'améliore pas après un temps de repos ou une nuit de sommeil. La fatigue liée au cancer est plus intense et difficile à gérer que les autres formes de fatigue, comme les formes de fatigue liées à une activité physique ou sportive. La fréquence de la fatigue. Des études canadiennes menées en 2016 montrent que globalement 80% des patients expriment une fatigue au cours de leur prise en charge, dont 50% dès le début de la prise en charge de la pathologie cancéreuse. 80% des patients rapportent une fatigue persistante au-delà des traitements, avec une fatigue médiane sur 2 années post-traitement. En cancérologie, le dépistage de la fatigue est recommandé. Il n'est malheureusement pas systématisé dans toutes les unités. Et ce dépistage devrait être systématique, même en l'absence de plainte d'un patient. Nous avons pour cela une grille qui s'appelle une EVA, une évaluation visuelle analogique de la fatigue. Après, on peut se demander la pertinence de coder et de codifier une fatigue. Les causes de la fatigue. La fatigue, elle est liée au cancer lui-même. Elle commence souvent avant le diagnostic. Elle est relatée par l'enfant, l'entourage ou l'adolescent lorsqu'il y a l'anamnèse qui est faite par l'équipe médicale. Elle s'aggrave du fait des traitements et des effets secondaires imputables à ceux-ci. il est indispensable dès l'annonce de la pathologie d'informer le patient des symptômes potentiels tels que la fatigue, des effets secondaires des traitements et de l'impact qu'ils auront sur la vigilance et la fatigue du patient. Ceci permettant à l'enfant, aux aidants ou à l'adolescent et jeune adulte, avec l'aide des professionnels de santé et des professionnels de soins de support, ça parle à tout le monde, médecin, kiné, diète, activité adaptée, tout ça, d'envisager des stratégies de soutien à mettre en place en accord avec le patient. L'écho, c'est aussi le cancer lui-même. Il y a des cancers de certaines glandes qui fabriquent des hormones qui peuvent générer une fatigue encore supérieure aux cancers autres ou aux cancers comme les leucémies pour ces patients. Le stade du cancer est important, savoir si c'est un primo-cancer, une récidive, un cancer métastatique ou un patient qui est malheureusement en situation palliative, la fatigue sera bien différente. Nous avons aussi l'anémie, qui est une diminution du taux de globules rouges et du taux de fer. L'anémie, elle peut être la conséquence du cancer. Elle peut être liée aussi aux effets secondaires des traitements par chimiothérapie. Et elle va engendrer une baisse de l'oxygénation des tissus, ce qui va entraîner un essoufflement des patients, même au repos, même alité, des palpitations, des vertiges, une baisse d'énergie. Et là, ça va vous parler des troubles de la concentration et des céphalées. Les traitements du cancer eux-mêmes sont des facteurs aggravants de la fatigue. Il peut y avoir la chirurgie. Il faudra prendre en compte la durée d'anesthésie, la méthode opératoire qui sera employée, et ainsi que la cicatrisation post-opératoire qui va entraîner un anabolisme cellulaire nécessitant beaucoup d'énergie en post-opératoire. Il y aura aussi les chimiothérapies, hormonothérapies et immunothérapies qui vont entraîner un catabolisme cellulaire initial, puis un anabolisme cellulaire secondaire qui nécessite là aussi beaucoup d'énergie. L'irradiation. La fatigue sera fonction de la zone et de l'étendue de l'irradiation, de la dose reçue. On sait également que la fatigue est associée au fur et à mesure au nombre de séances étalées sur les semaines, voire les mois. Dans 35 à 100% des cas, la fatigue peut persister pendant plusieurs mois après la fin des traitements. Nous avons aussi la douleur. La douleur, elle peut être provoquée par le cancer ou par les effets secondaires des traitements, comme la mucite, qui est une inflammation de la bouche. Et elle va être traitée par des antalgiques, voire des opioïdes, qui vont contribuer à potentialiser la fatigue. L'hyperthermie, induite par des infections opportunistes, va accentuer la sensation de fatigue du patient, qui sera déjà diminuée. Dans les autres causes, nous avons aussi les détresses émotionnelles et les troubles psychiques. Nous savons que le stress occasionné par le diagnostic de la maladie cancéreuse, des examens médicaux et d'imagerie qui vont se répéter sur tout le parcours de soins, l'angoisse de l'avenir, les répercussions sur la cellule familiale, les répercussions professionnelles et sociales vont entraîner des réflexions, ruminations, repli sur soi et parfois même dépression du patient. Par ailleurs, les troubles alimentaires tels que les nausées, les vomissements induits par les chimiothérapies ou par l'irradiation, voire parfois par les traitements par chirurgie, peuvent entraîner de façon plus ou moins prolongée une limitation des prises alimentaires. La baisse des apports alimentaires et énergétiques vont augmenter la fatigue, car le corps sera en restriction nutritionnelle, alors même qu'il aura besoin de consommer énormément d'énergie. Nous avons aussi les troubles du sommeil. Le corps a besoin de régularité dans les heures de sommeil, c'est ce qu'on nous dit. Ce n'est pas du tout ce que vivent les ados et jeunes adultes du service dans lequel je travaille, qui peuvent se coucher à 4 heures du matin après avoir fait toute une nuit sur une console. Il y a aussi les troubles du sommeil, traitement induit. Les patients qui prennent des corticoïdes vont avoir une excitabilité en journée et parfois des difficultés à s'endormir le soir. À l'inverse, les opiacés pris pour gérer la douleur peuvent entraîner des somnolences chez le patient. Le manque d'activité physique. Un enfant ou un adolescent qui va rester dans son lit alors qu'habituellement, avant la pathologie, il allait dans son établissement scolaire, qui faisait des activités sportives, périscolaires, là, va être dans une immobilité relative. Et le manque d'activité physique va entraîner des répercussions sur le dynamisme du patient et donc sur ses capacités d'endormissement le soir. On a parlé tout à l'heure de la bonne fatigue. Et j'ai mis en dernier point les transports. Les transports occasionnés par les examens, par les prises en charge hospitalières en hospitalisation complète ou en hôpital de jour, des patients qui partent sur différents sites pour être traités, eh bien, ces transports multiples vont accentuer la fatigue. On se dit, après tout, ce patient n'est venu que pour une heure en hôpital de jour, mais parfois il a eu 2 heures de transport avant de venir et il en aura autant avant de rentrer chez lui. Donc cette fatigue-là est à prendre en compte aussi. Les conséquences de la fatigue qui sont liées au cancer. La fatigue affecte la qualité de vie, car elle touche le bien-être personnel du patient, ainsi que les interactions sociales avec ses proches. Elle a des répercussions physiques, émotionnelles et économiques. Ces conséquences sur l'anémie vont engendrer une baisse de l'oxygénation des tissus, d'où l'essoufflement, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les troubles de la concentration et donc des potentiels troubles de l'apprentissage. Les thérapeutiques même du cancer, le catabolisme induit par les traitements puis l'anabolisme cellulaire vont générer une dépense énergétique très importante impactant la fatigue du patient. Les détresses émotionnelles et les troubles psychiques. Le stress occasionné par le diagnostic de la maladie cancéreuse, les traitements, l'angoisse de l'avenir, les répercussions familiales, professionnelles entraînent rumination, repli sur soi, dépression. Au niveau des troubles alimentaires, la baisse des apports alimentaires et énergétiques qui sont liés aux nausées, aux vomissements, aux mucides vont affecter la capacité du corps à se régénérer, à la perte du poids, voire la diminution sévère des capacités du patient, sont susceptibles de perdurer dans le temps après le cancer. On sait qu'il y a des patients qui, un an après le cancer, n'ont pas recouvré leur poids initial. Les troubles du sommeil, le patient sera affecté par une fatigue et physique et psychique, qui affecte ses capacités et, comme nous le disions tout à l'heure, ses performances. Nous sommes dans une société de performance et accepter d'être diminué sur un temps plus ou moins long est difficile à entendre pour les adolescents et jeunes adultes, peut-être un peu moins pour les enfants, mais c'est une réalité. Le manque d'activité physique, l'alitement prolongé aura des répercussions sur la fatigue. Plus un patient sera couché et inactif, plus la fatigue sera présente. Des études canadiennes, là aussi, montrent que la fatigue est corrélée à l'inactivité. Au niveau des activités intellectuelles et scolaires, un enfant ou un adolescent hospitalisé sera moins enclin à poursuivre spontanément ses activités scolaires, universitaires ou intellectuelles, du fait de l'hospitalisation et de l'isolement social induit. Il n'est plus avec ses camarades, il n'est plus avec ses pairs et la dynamique va être différente pour les apprentissages. La limitation des relations sociales. Le patient, du fait de son hospitalisation, aura moins de relations, moins d'interactions sociales avec ses pairs. Pour ce qui est... J'étais un peu vite. Les transports. Les transports inhérents au virage thérapeutique ambulatoire vont accentuer l'asthénie des patients. La société actuelle s'oriente vers de plus en plus de thérapeutiques ambulatoires qui coûtent moins cher à la société, mais qui peuvent parfois générer plus de fatigue pour les patients. Même si un bon nombre de ceux-ci nous expriment leur plaisir d'être le soir chez eux pour se reposer, N'oublions pas que moi, je travaille dans une unité ado et jeune adulte. Nous avons des jeunes adultes qui sont en couple, qui parfois ont des enfants. Rentrer chez soi le soir et s'occuper de, des enfants qui sont parfois en bas âge est très difficile pour ces jeunes adultes. Les préventions mises en place pour limiter l'impact de la fatigue ou pour apprendre à vivre avec la fatigue. Il va falloir dépister et traiter l'anémie par des transfusions ou des administrations d'érythropoïétine. Vous avez entendu parler des cyclistes autour de France qui prennent de l'EPO pour être en forme. On fait la même chose pour les patients. L'avantage de ces transfusions ou de ces administrations d'EPO, elles vont diminuer les céphalées, diminuer les troubles de la concentration, diminuer l'essoufflement, donc un mieux-être pour le patient. Nous allons aussi dépister, évaluer et traiter la douleur grâce à des échelles visuelles analogiques dès l'apparition des premiers symptômes, parfois même avant plainte du patient. Nous allons évaluer les effets secondaires des traitements avec les antalgiques, voir s'il y a un mieux-être du patient, et évaluer les effets secondaires, par exemple des antalgiques. Est-ce que le patient est somnolent avec l'administration des traitements, ou est-ce que des effets secondaires seront induits autre qu'à la somnolence? Je pense aux patients qui sont sous morphine et qui ont des prurites secondaires à la morphine et qui se grattent toute la nuit, qui se réveillent le matin en disant « l'infirmière a marqué, a dormi pendant 10 heures » et le patient se réveille le matin en disant « j'ai pas dormi, j'ai pas arrêté de me gratter ». Voilà. Il faudra dépister, traiter l'hyperthermie, dépister, évaluer et prendre en charge les troubles psychosociaux. L'orientation avec le psychologue ou la psychologue ou le psychiatre du service semble fondamentale pour permettre une verbalisation du patient, une communication sur les symptômes de la fatigue, une exploration des ressources du patient, une analyse des croyances et des limites que le patient peut bien accepter. Il faudra envisager aussi des thérapeutiques médicamenteuses. Alors là, on est toujours dans la réponse. Parfois, nous n'avons pas la réponse. La réponse médicamenteuse peut être les antidépresseurs, les somnifères, pour faire baisser l'anxiété, favoriser le sommeil, peut-être un mieux-être. Nous allons pouvoir aussi envisager de prévenir la dénutrition. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, obtenir un plan d'alimentation qui soit adapté à sa situation particulière, à son poids, à son âge, à sa taille, à ses goûts, à ses capacités de mastication et de déglutition. Nous allons évaluer la fatigue. Alors à la PHP, on aime bien avoir des grilles pour tout, pour bien tracer, bien codifier. Donc nous allons aussi codifier la fatigue. Nous avons pour cela une grille d'évaluation qui s'appelle la grille Piper, qui permet d'évaluer la fatigue, puis ensuite, si le patient l'accepte, de proposer des stratégies d'adaptation grâce aux soins de support, tels que le soutien psychologique, l'activité physique adaptée, un arsenal pharmacologique, de la kinésithérapie. L'enfant ou l'aja devra envisager des stratégies aussi de repos, de détente et de ne rien faire. Les aménagements des horaires de lever et de coucher seront à envisager avec le patient. Alors là, je ne vais pas vous vendre du rêve. La vraie vie, c'est qu'on sollicite les patients pour s'endormir pas trop tard, dans la bienveillance, en se disant plus ils auront dormi, peut-être seront-ils plus en forme demain. Les enfants petits, j'ai travaillé longtemps en pédiatrie, et sont couchés par le personnel ou par les parents, et il y a des temps calmes qui s'organisent aussi dans la journée. Les adolescents, entre les smartphones, les tablettes, les consoles, les jeux en réseau peuvent jouer une partie de la nuit. Et les temps de repos sont difficiles à appréhender pour certains patients parce que des temps vides. Nous avons des jeunes qui ne savent plus rien faire. Alors moi, je les sensibilise au fait qu'on ait aussi cette capacité à être en auto-hypnose. On sait que, par exemple, attendre, comme vous le disiez, devant un ascenseur, que l'ascenseur arrive pour aller à un examen, on attend une ou deux minutes et on sait que le cerveau souvent se déconnecte, on est en auto-hypnose et c'est des temps, des micro-temps de récupération qui sont bienfaisants. Et ça, les jeunes et notre société de la performance nous permet peu d'explorer ces, ses stratégies. Nous allons aussi évaluer l'activité physique du patient. Un patient qui arrive dans le service et qui ne faisait aucune activité physique, je ne vais pas lui demander de faire 4 fois par semaine 30 minutes d'activité physique adaptée avec le coach. Donc on va évaluer ses capacités physiques et motrices à l'arrivée et nous allons lui proposer, s'il le souhaite, je dois avouer que je suis un peu pénible sur le sujet, mais j'aime bien qu'il fasse un peu d'activité pour avoir des temps où on est sur autre chose que de la rumination ou des temps d'apprentissage scolaire, médicaux, parce qu'on leur demande d'apprendre aussi leurs médicaments, ce qui est leur pathologie, tout ça. C'est très important. Donc nous allons ensemble envisager avec les profs d'activité physique adaptée un programme d'activité qui sera émaillé sur 2 à 3 jours par semaine. Pourquoi on leur propose cette activité physique adaptée ? Parce que des études françaises ont été menées et qui prouvent que 2 à 3 fois par semaine, 30 minutes d'activité physique adaptée diminuerait de 20 à 30% la fatigue ressentie par le patient. Je vais au niveau des activités intellectuelles et scolaires proposer lors de l'entretien d'annonce diagnostique au patient de rencontrer l'école à l'hôpital. Alors on a Corinne Deblinière qui est dans notre unité qui fait un travail formidable et j'explique au patient que nous avons mis en place une unité spécifique ados et jeunes adultes, où la prise en charge est globale et que on prend en charge le psychisme du patient, la pathologie du patient, mais aussi son cursus scolaire et universitaire. Et que dans la mesure du possible, on va essayer de limiter les décrochages scolaires et qu'on va lui permettre à ce jeune patient d'accéder à des enseignements adaptés à ses capacités intellectuelles du moment et à sa fatigue du moment. Donc les activités scolaires dans le service ne sont pas au libre arbitre du patient. On leur propose très généreusement et on pousse derrière pour que ça tienne le coup. Il faudra donc pour cela envisager des transmissions avec le délégué de l'école à l'hôpital pour donner des informations sur la santé du moment du patient, sa fatigabilité, les effets secondaires des traitements qu'il subit actuellement. Malheureusement, dans la vraie vie, même si on dit à Corinne, c'est bon, ce patient-là, vous pouvez le voir tout l'après-midi, vous connaissez les aléas de la thérapeutique, eh bien, c'est le scanner au moment où la prof d'histoire géo est en train de faire son cours, c'est les frissons, la transfusion sanguine, et donc ce qui avait été envisagé comme programme peut être totalement déstabilisé par l'état de santé du patient. Nous allons aussi envisager de favoriser les relations sociales du jeune, de l'enfant, voire de l'adolescent. Nous avons dans notre unité AJA la chance d'avoir eu le financement d'un animateur. Dans d'autres unités, ce sont des éducateurs en secteur hospitalier qui vont participer avec le patient à dynamiser des activités de groupe ou des activités individuelles. Les activités de groupe ont cet attrait que les jeunes se retrouvent entre pairs, ils vont pouvoir échanger sur des thématiques. Nous avons des ateliers, des petits groupes de parole, et la fatigue et la sexualité sont des sujets qui reviennent régulièrement. Nous allons aussi proposer des prises en charge sociales. La prise en charge sociale va être là pour évaluer les besoins du patient à l'hôpital, mais aussi lorsqu'il faudra envisager son retour à domicile et l'adaptation du domicile à la fatigue du patient. Nous allons, dans un dernier point, envisager aussi des prises en charge locales. Nous avons des établissements en Île-de-France qui sont affiliés au RIFOP, Réseau Île-de-France en hématologie et oncologie pédiatrique, qui sont des relais en proximité du domicile du patient. Et lorsque l'on peut faire prendre un patient en charge dans son établissement de proximité, nous limitons autant que possible les temps de transport qui sont là aussi à mettre en difficulté le patient sur sa fatigue. Prévention et mise en action des stratégies, nous avons aussi l'évaluation donc du domicile. Ça m'incombe totalement. Lorsqu'un patient est fatigué, je dois évaluer avec lui-même et avec ses cédants quelles vont être les modalités de retour à domicile. Est-ce que le patient peut rentrer au domicile? Est-ce qu'il doit partir en maison de convalescence, soins de suite et rééducation? S'il rentre à la maison, y a-t-il des aidants en capacité de fournir une aide logistique à ce patient? Et faudra-t-il envisager aussi des aménagements du domicile? Même chez les jeunes, nous pouvons avoir besoin de réaliser la mise en place de barres de relevage dans les toilettes, de barres de douche, de sièges de douche, aménager des lits médicalisés au domicile, tout ça pour permettre au patient de limiter autant que possible sa fatigue. Envisager si la chambre est à l'étage, comment faire pour monter le jeune? Est-ce qu'il y a des paliers? Envisager de mettre une chaise sur le palier pour faire un petit temps récupération. Voilà, ce sont des tout petits outils, mais qui peuvent permettre aux patients d'avoir une qualité de vie et de gérer au mieux sa fatigue lors du retour au domicile. On va apprendre aussi aux patients à prioriser ses activités. Qu'est-ce qui est important à faire aujourd'hui? Donc, en principe, ils font une liste. Quand il rentre à domicile, il faut faire les papiers administratifs, la sécu, tout ça. Et on va essayer d'envisager la priorisation des activités. Certaines ne sont pas forcément très urgentes, certaines peuvent être déléguées à des aidants. Et si on est dans cet accompagnement, on peut limiter la fatigue induite par toutes ces activités annexes. Il faudra aussi envisager les limites des aidants. Parce que nous, à l'hôpital, on se dit, c'est bon, il sort... À la maison, ça va rouler. Mais que faire lorsque l'on a un papa et une maman qui travaillent tous les deux, une fratrie qui est nombreuse, qu'on partage la même chambre que son frère ou que sa sœur ou que deux ou trois autres enfants, parce qu'on a des enfants dont on apprend qui sont dans leur chambre à l'étage, dans le lit superposé numéro 2, niveau haut. Voilà. Donc tout ça est à prendre en charge pour la prise en charge à domicile. Et puis on va envisager aussi la mise en place de relais de soins de support en proximité du domicile du patient. Donc on a les réseaux territoriaux d'oncologie. Pour les plus grands, nous avons des réseaux adultes qui peuvent être mis en place et qui vont favoriser la synergie des soins de support. L'orientation vers les soins de support en ville me semble fondamentale. Un patient bénéficie de soins de support à l'hôpital lorsqu'il rentre à la maison. Un bon nombre d'entre eux nous disent « je me sens totalement perdu et démuni ». Trouver un kinésithérapeute qui continue à faire un petit peu d'activité avec le patient si celui-ci le souhaite pour une récupération de la motricité est nécessaire. Il faut toujours aller dans le sens du patient. Un patient qui me dira « Rachel, je n'ai pas envie de faire de kiné, je ne vais pas le forcer ». L'idée étant de faciliter son retour à domicile pour une meilleure qualité de vie au retour. Il faudra envisager aussi la poursuite des apprentissages scolaires lors du retour à la maison. Donc, nous, dans les établissements hospitaliers, nous avons ou l'éducation nationale ou l'école à l'hôpital. Il faudra poursuivre ces apprentissages aussi à domicile. Certains patients sont très, très demandeurs de poursuivre leur cursus. Alors, parfois avec des aménagements de temps, décalés, vous le connaissez parfaitement, les dates des épreuves. Certains sont très très preneurs. D'autres vont, je ne vais pas dire prendre le prétexte parce qu'on va dire après qu'ils sont paresseux, mais vont profiter, entre guillemets, du bénéfice secondaire de cette pathologie pour lâcher une filière qui n'était pas celle qu'ils avaient envisagée initialement. Les deux tiers de nos patients nous disent tout compte fait, je faisais cette formation, mais c'était plus pour faire plaisir à mes parents. La pathologie a fait effraction dans mon développement, dans mon projet de vie. Et donc, tout compte fait, je vais faire une réorientation. Donc là, on a toute l'importance de la structure de ou l'école à l'hôpital ou l'éducation nationale pour réorienter ce jeune sur une filière qui lui semble la plus adaptée. Les écueils et les limites de la prise en charge de la fatigue à l'hôpital. C'est l'utilisation de ces fameuses réglettes dont je vous parlais d'évaluation de la fatigue. Doit-on rentrer tous les patients dans des grilles? Est-ce qu'on ne peut pas ne pas systématiquement tout cloisonner dans des grilles? Malheureusement, comme disait M. Fiat, on nous demande de plus en plus de traçabilité de ce que l'on fait plutôt que de faire auprès du patient. C'est très chronophage, mais ça fait partie des audits que nous avons à l'hôpital où nous devons tracer ce que nous faisons. Un autre écueil, c'est la priorisation et l'articulation des soins de support au bénéfice du patient. Un patient qui est fatigué, il faut que quelqu'un envisage l'articulation de sa journée. Quelle est la priorité du moment? Est-ce que ça va être de voir la diététicienne alors que dans l'après-midi, il dort pendant 2 heures et qu'on a un créneau d'une heure et demie d'éveil et de perméabilité psychique du patient? Est-ce que ça va être la psychologue? Est-ce que c'est l'école à l'hôpital? Est-ce que c'est l'activité physique adaptée? Donc la priorisation est quelque chose de difficile et on sait que parfois ça coince un petit peu dans les services. Tout le monde aimerait pouvoir mettre la pierre à l'édifice pour soutenir ce patient et les journées sont parfois trop courtes. Nous avons l'accessibilité aux soins de support en proximité du domicile. Il y a des territoires qui sont très pauvres en soins de support. Autre écueil, l'incompréhension de l'entourage qui ne comprend pas la fatigue sur le long terme du patient. Les leucémies, grosso modo, au bout de, enfin, on va prendre les lymphomes. Un lymphome, c'est 4 à 6 mois de traitement. Au bout de 6 mois, on leur dit, même peut-être avant, tu peux rentrer à l'école. À partir du moment où ils rentrent à l'école, les parents disent, c'est bon, ils vont à l'école, ça roule. Alors qu'en fait, cette fatigabilité, elle va rester. Il y a une fatigue résiduelle pendant plusieurs mois. Et les conjoints ou les parents ne comprennent pas toujours cette fatigabilité sur le long terme. Autre limite, la présence des aidants et leurs limites dans le soutien et l'accompagnement du patient. Je vous ai mis une petite bibliographie pour les statistiques et je vous remercie pour votre compréhension.
Merci beaucoup. Vous nous invitez à pénétrer cet espace de soins hein, avec toutes les contraintes qui s'y posent et on voit comment il est difficile pour les soignants de naviguer entre leur souci de bien faire, ce qui est attendu d'eux, ce que les patients devraient suivre comme conseils et prescriptions et ce qu'ils souhaitent adopter comme conduite et combien cet exercice-là est un exercice qui ne peut se soutenir individuellement pour ne pas occasionner trop de fatigue chez le soignant qu'à condition qu'il y ait une dynamique d'équipe et un ensemble cohérent dans lequel ça s'inscrit, évidemment. Vous avez bien pointé aussi que, outre les effets somatiques directs des pathologies, des traitements, etc., il pouvait y avoir, et j'y suis particulièrement sensible, une dimension psychologique et en particulier ce que l'on voit fréquemment dans les difficultés du matin, hein, qui sont souvent associés, ces fatigues du matin, chez l'adulte comme chez l'enfant, à des états subdépressifs, mais là, dont on voit bien qu'ils peuvent être aussi en partie liés à ce qu'ils vivent. Et cet équilibre est bien difficile, hein, entre les protocoles qui dicteraient des manières de conduire les soins de tel ou tel type, les besoins et les désirs individuels du patient, qui peuvent être extrêmement variés, et le soignant au milieu de tout ça qui cherche à concilier les deux, ce qui n'est pas évident, les exigences extérieures venant de l'institution de la science entre guillemets et d'autre part les attentes et les besoins du patient tels qu'il les appréhende au plus près dans la vie quotidienne. Donc merci beaucoup pour cette approche. On va tout de suite passer la parole à Viviane Seron qui est comédienne, art-thérapeute et ancienne étudiante suivie à l'hôpital Saint-Louis entre, il y a très longtemps, 2014 et 2015. Comme vous voulez. Et on aura un petit temps d'échange avant la pause repas ensuite.
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre accueil. Merci de m'avoir proposé de participer à cette journée. Je suis heureuse de pouvoir le faire en tant que patiente et en tant qu'ancienne étudiante de l'école à l'hôpital. Je suis toujours encore un peu étudiante, quelques heures par semaine, j'ai du mal à lâcher. Ma contribution, elle va être très personnelle. C'est voilà, une expérience parmi des milliers d'autres. Je propose un regard original sur la fatigue dont Eric Fiat vous a un peu livré l'essence, dont Rachel vous a décrit les multiples, enfin, quelques facettes, et dont je vais moi-même essayer de dresser un portrait, ou plutôt un autoportrait, puisque parler de, enfin, témoigner sur la fatigue, aborder ma fatigue, c'est forcément parler de moi. Et quoi de plus intime que de décrire cette expérience profonde liée à un événement de vie aussi sensible ? Je me suis donc demandé comment vous en parler, sans avoir l'impression de trop m'exhiber. Et il m'est apparu que la seule manière de pouvoir le faire,